Évadez-vous en suivant Sur le pont des arts avec la compagnie Corsaire et ses vols vers Paris, l'Afrique et l'océan Indien.
Sur le pont des arts, Nathalie Amar.
Bonjour à toutes et à tous, un coup de foudre au musée du Louvre, dans la salle des cariatides. Un mariage, un enfant qui s'annonce, toutes les apparences d'un amour parfait. Anna et Auguste coulent un séjour tranquille à Lombok, une île de la mer de Bali, lorsque survient un tremblement de terre, puis un tsunami qui vont les séparer. Une vague, c'est le sixième roman d'une autrice déjà prolixe, elle s'appelle Lynn Papin, elle n'a pas 30 ans, elle nous plonge dans une réflexion sur le deuil, sur la disparition, sur la capacité aussi de chacun à s'inventer une nouvelle vie, à sortir d'une forme de déterminisme, celui de la naissance, de la classe sociale, de la famille. Bienvenue sur le Pont des Arts, aujourd'hui donc avec Lynn Papin. Bonjour Lynn Papin, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans votre premier roman, L'éveil, vous aviez situé l'action au Vietnam, le pays où vous êtes née. Cette fois, la vague débute en Asie, mais nous entraîne aussi en Europe, aux États-Unis, de Lombok à Arles, New York. Il y a chez vous un appétit pour l'ailleurs, pour la découverte?
Oui, tout à fait. C'est vrai que je suis née, moi, à Hanoï, au Vietnam. Et ensuite, à l'âge de 10 ans, je suis arrivée en France. Et je pense que ça ne m'a jamais quittée. J'ai grandi dans une école internationale avec des amis qui venaient un peu de partout, du Canada, de l'Italie. Et je crois que l'envie d'aller ailleurs ne m'a jamais quittée. Et donc, c'est en effet l'un des sujets du roman.
C'est l'un des sujets du roman que vous avez conçu comme un roman à suspense?
Oui, qui s'est modifié parce que j'ai écrit pendant 3 ans. Et il est venu, il s'est étoffé petit à petit. Ouais. Et en effet, c'est le premier roman que je fais avec une intrigue aussi travaillée, je pense. Ouais.
Alors justement, dans cette émission, Lynn Papin, il sera question tout à l'heure de la reine du crime anglais, une écrivaine également, Agatha Christie. Bonjour Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous.
Agatha Christie qui fait l'actualité, non pas en librairie, mais sur scène. Et on en parle dans le Café Polar.
Oui, je vais vous emmener aujourd'hui au théâtre, assister à une pièce légendaire, La Souricière, écrite par Agatha Christie et qui se joue à Londres depuis 1952, sans interruption. Et en ce moment, grâce à la troupe de la Comédie Française, on a le bonheur de voir une nouvelle version française absolument réjouissante qui reprend tous les codes de la comédie policière britannique avec, bien entendu, des meurtres.
Évidemment.
Si ce psychopathe veut venir jusqu'à nous pour tous nous tuer, on est en sécurité ici grâce à la neige. Personne ne peut venir jusqu'à ce que ça fonde.
Sauf s'il est déjà là.
La Souricière au théâtre, on en parle avec vous tout à l'heure, Catherine.
RFI sur le pont des arts.
Lynn Papin, votre roman débute donc par une séparation ultra-violente, celle que provoque entre Anna et Auguste le tsunami sur l'île de Lombok. Le couple parfait, en apparence en tout cas, se lâche la main pour ne plus se retrouver. Racontez-nous cette scène terrible qui ouvre le roman.
Oui, c'est la scène d'ouverture du roman. Donc le couple se lève un matin et le lit tremble. Donc elle lui dit « tu bouges ». Et puis elle se rend compte que ce n'est pas lui qui bouge, c'est le sol.
C'est
en fait,
terre.
C'est un tremblement de terre. Et donc, tout le monde court dans l'hôtel, tout le monde descend. Il se réfugie, en quelque sorte, du tremblement de terre en allant sur la plage pour sortir de la tour. À ce moment-là, Auguste lâche la main d'Anna, sa compagne, et lui dit « ne bouge pas surtout, je reviens, je remonte chercher ma toile » parce qu'il est peintre. « Ne bouge pas, je reviens. » Et en fait, à partir de ce moment-là, elle ne va jamais le retrouver.
Ouais.
C'est-à-dire que tout le monde va crier au tsunami. Donc, elle va remonter dans la tour pour se protéger de la vague. Mais quand elle se relève, lui a disparu et personne ne retrouve son corps.
Ouais. Et lui va à la recherche de cette toile à laquelle il tient particulièrement. Elle a un sens particulier, cette toile. Donc, elle est surprise qu'il lui lâche la main à ce moment-là. Mais elle le comprend, elle accepte, on va dire.
Bah, disons qu'elle n'a pas tellement le choix, puisqu'ils sont dans
tout
la panique.
Ça va très vite.
Voilà, tout ça va très vite, c'est dans la panique. Et puis lui, justement, j'avais envie d'interroger ses réflexes. Il y a un film comme ça qui s'appelle Snow Therapy, dans lequel l'homme, justement, lâche toute sa famille lors d'une avalanche de neige et court. Et là, c'est un peu la même chose, dans le sens où, quand une catastrophe arrive, on ne sait jamais comment on va réagir. Et ça révèle, au final...
Et lui, son réflexe, c'est donc d'aller chercher sa
toile. Voilà, de fuir et d'aller chercher sa toile.
Quand elle se réveille blessée, Anna, vous écrivez, Lynn Papin, que Lombok est devenu un lac, l'eau marron a envahi la ville. Elle ne veut pas croire, pourtant, elle, qu'il est mort. Elle l'appelle inlassablement, elle espère qu'il va décrocher. Elle se console même en écoutant sa voix sur son répondeur.
Oui, parce que c'était le thème du deuil sans corps. En fait, c'était le thème du deuil avec le corps qui a disparu et donc le doute. Et je trouvais que le doute était très romanesque puisque le doute, évidemment, tout le monde dit qu'il est mort, ça fait des mois qu'on n'a pas retrouvé le corps. Mais elle dit, puisqu'on n'a pas retrouvé le corps, il y a quand même un doute, peut-être qu'il est encore vivant.
Oui, c'est-à-dire que sans la matérialité de la mort, voilà, on peut encore la nier, la rejeter, alors qu'elle semble, au fur et à mesure que le temps passe, de plus en plus évidente, de plus en plus inéluctable.
Et à un moment donné, les autorités vont le déclarer mort officiellement.
Ouais.
Mais c'est vrai que j'avais envie de construire aussi le roman sur ce doute.
En tout cas, c'est impossible pour elle de faire son deuil, effectivement, faire le deuil de quelqu'un dont elle ne voit pas le corps. La vague qui donne son titre à ce roman, c'est évidemment celle dont on vient de parler, celle du tsunami. C'est aussi celle qui submerge les humains d'émotions, celle du deuil des gens, celle du deuil d'un amour.
Oui, et puis le tremblement de terre aussi. Je pense que c'est aussi une métaphore, évidemment. L'idée que parfois dans la vie, le sol d'un coup se fissure sous nos pieds et on a l'impression que tout s'écroule. Et on se dit, mais comment je vais faire? Et puis on se sent complètement submergé. C'est un titre à jeu de mots. J'en ai fait les frais depuis sa sortie.
Avec les titres des journaux.
Oui, voilà, surfer sur la vague, etc.
Ouais.
Mais c'est vrai que ce leitmotiv va poursuivre les personnages jusqu'à la fin du roman, puisque jusqu'à la fin...
Ah, on va pas la dire, la
on
fin
va pas
du
la
roman.
Dire, la fin. Bien sûr que non.
Mais jusqu'à la fin.
Mais en tout cas, ils ont cette vague qui leur est arrivée dans le ventre, quoi.
Ouais. Anna et Auguste, je le disais tout au démarrage, c'est un couple qui a l'air parfait, mais c'est un couple qui n'allait pas de soi socialement. On le comprend un petit peu plus tard, quand elle finit donc par être rapatriée en France. Elle finit donc par accepter de quitter ce lieu où elle a perdu l'amour de sa vie. Elle est rapatriée donc dans le sud de la France chez papa-maman. Et on apprend donc un peu plus de leur vie d'avant. Elle est fille de boucher, lui héritier d'un empire industriel, différence de classe, de milieu social. C'était important pour vous aussi, dans cette intrigue, qu'ils viennent de deux mondes différents, de deux mondes hermétiques habituellement?
Oui, parce que l'un des thèmes du livre, c'était vouloir devenir quelqu'un d'autre. Et en fait, tous les personnages du livre ont le désir de devenir quelqu'un d'autre. Et moi, ça m'interroge sur le fait que quand on grandit, on a envie de devenir quelque chose, quoi. Soit on sait très bien quoi, soit on ne sait pas trop quoi, mais on sent qu'il faut quand même devenir. Mais la question, c'était vraiment, peut-on échapper? Peut-on devenir autre chose que soi? Et donc Anna, elle a le désir, elle est fille de boucher à Arles, elle a le désir de monter à Paris et de devenir prof dans un lycée et de quelque part faire ce mouvement un peu d'ascension sociale.
Oui, parce que ses parents la destinent tout simplement à la reprise du commerce.
Voilà.
Or, elle, elle
n'a Dieu, autre chose.
Oui, elle n'a Dieu que pour les livres que son père a quand même dans la bibliothèque de la maison familiale.
C'est ça.
Et lui, rêve-t-il alors?
Lui hérite donc de toute l'entreprise à la mort de son père. Mais lui, en fait, se rêve autre chose. Lui se rêve peintre, en fait, il se rêve artiste. C'est quelque part là où les deux personnages vont se croiser, puisque elle se rêve un peu lui et lui se rêve un peu elle, quoi, en gros.
Ouais. C'est en apparence un conte de fées. Les voisins des parents à Arles le pensent. Elle aussi le pense. En tout cas, c'est ainsi qu'elle le raconte dans la première partie du roman. Et ça a aussi son importance, cette salle des cariatides où elle ose s'adresser à lui alors qu'elle ne le connaît pas, le jour où elle fait sa rencontre. On saura plus tard d'ailleurs que lui aurait dû y être avec sa mère, précisément qui n'était pas très favorable à cette union. Ce lieu-là, pour leur rencontre, vous l'avez choisi comment?
Je l'ai choisi parce qu'à un moment donné, j'avais eu l'idée d'écrire un livre sur le Louvre.
Ah.
Et donc, je m'étais renseignée sur cette salle. Et puis finalement, ce livre ne s'était pas fait. Mais j'ai fait...
Vous voulez dire une trame romanesque sur le Louvre? C'était votre idée? Ouais, ou alors un livre...
Non, oui, j'avais une idée vraiment de roman sur le Louvre.
De roman sur le Louvre.
Et finalement, comme la plupart du temps dans l'écriture, ça s'est transformé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'art dans ce livre, puisqu'il y a la toile, il y a le Louvre, il y a tout l'univers de chez Christie's, ensuite de la vente aux enchères. Et je pense que moi-même ayant fait des études en fait d'histoire de l'art, un master d'histoire de l'art, et c'est quelque chose qui me plaît. Et donc je crois que ça s'est retrouvé assez naturellement.
Ça s'est retrouvé naturellement. C'était dans le projet initial puisque vous nous avez dit que vous avez mis du temps à écrire ce roman, qui a eu une version peut-être allégée, qui s'est alourdie au fil des ans. La salle des Cariatides, le Louvre, c'était là depuis le début.
C'était là, il y en avait même davantage. J'ai coupé, je pense, au moins 100 pages de ce livre. Et en fait, au départ, j'avais uniquement l'histoire d'Anna, donc de cette femme qui perd cet homme avec le doute, où elle se demande serait-il possible qu'il soit encore vivant. Et j'avais donc toute la trame. Et puis mon éditeur m'a dit, mais il faut quand même qu'on en sache plus sur cet homme. Ouais. Et c'est là où il y a eu toute
Que lui prenne un peu d'épaisseur.
Exactement.
D'épaisseur romanesque. On l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, dans la vie d'Anna, après la vague, une fois qu'elle rentre en France, il y a un tournant. C'est quand le droit s'en mêle, et vous le racontez très bien, le code civil.
Oui.
L'article 88 qui dit qu'on peut déclarer la mort de quelqu'un en cas de disparition, quand on n'a pas justement de corps, et l'article 91, la dissolution du mariage. C'est un tournant terrible pour elle.
Oui, en fait, ça m'avait frappée. J'ai demandé tout ça à mon avocate, d'ailleurs. Mais je me demandais, en fait, sur la disparition lors d'une catastrophe naturelle, à quel moment on déclare la mort, etc.
Ouais.
Et puis sur les disparitions, ce qui m'avait frappée, c'est qu'il y a comme un trou un peu dans la loi, puisqu'en fait, on a le droit de disparaître. C'est-à-dire qu'un adulte a le droit de disparaître, en tout cas du côté pénal. Rien n'interdit quelqu'un de disparaître. Après, on a des obligations, évidemment, quand on a d'autres, quand on a des enfants, etc. Mais en tout cas, il y a ce droit à la disparition. Et donc, c'est aussi sur cette pierre, on va dire, angulaire que le roman s'est construit.
Anna, en tout cas, est sonnée à ce moment-là, on le comprend. Elle doit renoncer au nom de Friedman et reprendre son nom de jeune fille. On a le sentiment que sa vie s'écroule, mais il faut continuer à vivre. Elle est prof de français, hein, vous nous l'avez dit tout à l'heure, elle a voulu s'élever un peu en niveau d'études, en tout cas. Elle doit donner son cours, et avant de donner son cours, faire taire les bavards dans la classe. Lynn Papin, je vais vous demander de nous lire un extrait de votre roman, donc Une vague, on est à la page 78 et elle est donc dans cette classe. Oui.
Silence, finit-elle par crier, sans savoir si elle ordonne ce silence à ses élèves ou à ses pensées. Mais une chose est sûre, il ne faut pas glisser sur la pente de la folie, il faut se ressaisir et faire son cours sur la princesse de Clèves, agir comme un robot, avancer, ne songer à rien d'autre qu'à l'instant ultimement présent, c'est-à-dire à cette classe de première B, au bac, aux élèves, point barre. Il ne faut pas glisser sur la pente de la folie, car si elle continue avec toutes ses pensées, elle va devenir folle. Oui, et ça, elle ne le peut pas, elle ne le veut pas. Si Auguste revient, n'est-ce pas, s'il revient, il doit la trouver heureuse, belle et prête pour lui. Il doit la trouver telle qu'il l'a vue pour la dernière fois, hilar sur le bateau à Florès, ravie sur la plage à Bali, amoureuse au restaurant à Lombok, le dernier soir, la nuit du 12. En aucun cas, il ne doit la retrouver folle. Mais il est mort, voilà la vérité. Il faut arrêter maintenant, arrêter de croire qu'il reviendra, car votre mari disparu est déclaré mort. Votre mari est mort, madame. Madame ? Anna lève la tête. Les élèves la regardent avec de grands yeux ronds. Devant elle, un jeune homme insiste. Votre classeur est tombé, madame.
Merci pour cette belle lecture, Lynn Papin. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, quand elle entend cette voix qui lui dit la vérité, enfin, elle croit entendre la vérité alors qu'on lui dit autre chose, Anna peut entamer son deuil.
Oui, elle essaye en tout cas. Et c'est l'histoire, en fait, le roman se passe sur 11 années. C'est aussi la première fois que je fais un roman aussi ambitieux sur la durée, parce qu'il va se développer sur 3 continents et sur 11 ans. Donc c'est vrai que c'était un peu une montagne à écrire, à imaginer et à gravir. Mais en tout cas, pendant 11 ans, en fait, elle tente d'oublier ce mort, ce fantôme, et de laisser la place à un nouvel amour. Elle rencontre un nouvel homme qui va avoir du mal à justement remplacer le disparu.
Elle dit à un moment, et vous dites évidemment, contre les morts, on ne peut pas gagner.
Oui, parce que cet homme qu'elle
va... C'est tout le drame. Ouais.
C'est ça, et cet homme qu'elle va rencontrer va déployer tout ce qu'il peut pour prendre sa place dans sa vie et pour essayer de construire avec elle. Et elle a l'impression qu'il fait toujours la course contre quelqu'un.
Ouais.
Et elle lui dit, mais en fait, contre les fantômes, contre les morts, on ne peut pas gagner.
et personne évidemment à ses yeux ne pourra dépasser dans cette bataille son Auguste disparu. On fait une pause en musique et on se retrouve, Lynn Papin, pour continuer d'évoquer ce roman Une vague.
Que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien.
C'était Feu Chatterton, tiré de la playlist RFI, que vous retrouvez évidemment sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Lynn Papin est avec nous sur le Pont des Arts pour son dernier roman, Une vague, où il est question de disparition. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Lynn Papin, d'un documentaire qui est sorti hier qui s'appelle L'air mouillé. Il est question de Tiphaine Véron, une Française dont on est sans nouvelles depuis bientôt 7 ans. Elle était partie seule au Japon en 2018. La dernière trace que l'on ait d'elle, c'est dans un hôtel à Nikko. Et dans la scène que l'on va entendre, sa famille, qui s'est occupée de vider l'appartement parisien de Tiphaine, installe ses affaires chez la maman.
Il ne faut pas que ça devienne un mausolée non plus. Hein.
Non.
D'abord, ça ne peut pas être un mausolée, puisqu'on ne sait pas si elle est vivante ou morte. Un mausolée, c'est quand tu reconstitues l'univers d'un mort et que tu n'y touches pas. Là, c'est différent. Non, on ne sait pas si elle est morte ou vivante. Non, on ne sait pas si elle est morte ou vivante. Donc, du coup, l'idée, c'est que si elle revient, si par bonheur elle revient, elle a son univers qui est là. L'important pour elle, c'était ses livres, ses CD, ses DVD.
Je suis contente que ça soit fini, quel cauchemar.
Ah oui, non, mais en fait, c'est ça. C'est que, de toute façon, il y avait cette espèce de phase de transition qui était...
Fallait le faire. On savait que ce serait dur, il fallait le faire. Maintenant que c'est fait, je suis soulagée.
Voilà, L'air mouillé de Cécile Juan, documentaire disponible gratuitement sur la plateforme Sanofi Live. Ça fait totalement écho à l'histoire que l'on racontait, à l'histoire de votre roman, Lynn Papin.
Oui, bah d'autant plus que moi j'ai fait beaucoup de recherches sur les disparitions et il existe, ça existe énormément au Japon justement. Il y a un livre que j'ai lu sur les évaporés du Japon. Et en fait, ce sont des gens justement qui décident de disparaître, qui s'appellent les Joatsu. Il y a un mot pour ça et c'est présent dans mon roman puisqu'il y a toute une, toute la seconde et la troisième partie sont sur ce sujet-là.
Puisqu'il y a un disparu volontaire
voilà.
qui va réapparaître, on peut le dire. Vous nous avez donné l'autorisation de le dire. Il va finir par réapparaître dans des circonstances que l'on n'imagine pas forcément. Il y a aussi cette notion nouvelle de droit à la disparition que vous évoquiez tout à l'heure, qui est terrible pour les proches, mais qui se développe, c'est effectivement un droit. Oui. Et cette profession, alors que moi j'ai découverte dans votre roman, la profession de disparaisseur,
exactement.
Lynn Papin, de quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien, en fait, j'ai fait pas mal de recherches justement pour accompagner mon personnage. Et autant j'ai écouté énormément de témoignages de gens qui avaient disparu volontairement pour essayer de comprendre leur motivation, ce qui se passait dans leur cerveau à ce moment-là, et ensuite après. Et une fois que mon personnage donc, en fait, fait le choix de disparaître et de changer de vie, puisqu'il s'agit de ça, je me suis dit, mais comment il va faire concrètement pour avoir un nouveau passeport, une nouvelle identité, un compte bancaire, enfin voilà, comment ils font, quoi. Et donc, j'ai recherché et j'ai trouvé un homme qui s'appelle Frank Ahern, que j'ai renommé dans mon roman, qui est disparaisseur de son métier. Et donc, il a une entreprise qui organise la disparition des gens et leur réapparition, leur réinsertion sous un nouveau nom, avec une nouvelle identité dans la société, aux États-Unis en l'occurrence.
Donc, c'est une entreprise qui a pignon sur rue et dont le métier est très officiellement au vu et au su de tous, de créer une nouvelle identité à des gens qui souhaitent disparaître. Ça semble incroyable.
Et pourtant, bon, aux États-Unis, tout est incroyable en même temps. Mais moyennant, 30 000-40 000 $. Et en fait, il le fait, lui, pour des gens qui se sentent en danger, par exemple des lanceurs d'alerte ou des femmes... qui se sentent en danger, qui battus,
parce qu'il y a question de la création d'une nouvelle identité, mais il y a aussi la question de faire disparaître l'ancienne, d'en effacer toutes les traces.
C'est ça
aussi l'enjeu de ce métier-là.
Oui, et donc mon personnage choisit de rencontrer cet homme pour se créer une nouvelle identité. Et en fait, c'est beaucoup plus courant que ce que l'on pense, finalement, au niveau des chiffres, du nombre de gens qui disparaissent volontairement.
Mm-hmm. Ce métier de disparaisseur, il existe ailleurs qu'aux États-Unis ?
Il existe au Japon,
Japon
les Joatsu. Ils ont ce qu'ils appellent des boutiques de nuit, Yonigeya. Et en fait, ils organisent parfois, par exemple, ils font semblant qu'il y a un cambriolage qui a mal tourné et que la personne est morte et a été assassinée. Et en fait, ils vont refaire... les aider à les accompagner dans leur nouvelle vie, on va dire. Mmh. Et lui, Fred Ahern aux États-Unis, Frank Ahern, pardon, Fred, c'est dans mon livre.
C'est dans le roman,
Mais Frank Ahern aux États-Unis, il a écrit un livre qui s'appelle « Comment disparaître ». C'est un petit livre noir, très mystérieux. Et donc, l'été dernier, quand j'étais dans mon écriture, j'ai passé pas mal de temps au café avec avec ce livre « Comment disparaître », en suivant un peu
Vous
les étapes.
Vous l'avez étudié de près.
Ben oui, parce que je voulais que ça soit réel, ce qui se passe dans le roman.
Qu'est-ce qui, vous, personnellement, vous intéresse dans cette question de l'identité multiple, Lynn Papin ? Le fait, effectivement, de pouvoir changer de vie, d'avoir plusieurs vies en une, de se réinventer ?
Ben, je pense que c'était quand même assez inconscient, parce que quand on écrit, c'est toujours un peu des failles un peu inconscientes qu'on traîne. Mais j'imagine que, étant née à Hanoï, ayant grandi avec deux langues, deux cultures, des parents qui venaient de milieux sociaux très différents, et ensuite en étant arrivée en France à l'âge de 10 ans, quelque part, j'ai un peu dû me réinventer, trouver une nouvelle identité. Et puis j'ai changé beaucoup, beaucoup d'écoles. En fait, chaque année, j'étais dans une nouvelle école. Et donc, j'étais un peu toujours la nouvelle de la classe. Et donc, il fallait toujours se représenter. Et j'imagine que ayant toujours déménagé, etc., je pense que c'est quelque chose qui me travaille un peu.
Donc vos multiples vies, bien que vous n'ayez pas encore 30 ans, elles sont déjà derrière vous, c'est ça que vous nous dites.
Ah, mais j'espère qu'il y en aura devant aussi.
Il
n'y
a pas un projet de changer encore à nouveau radicalement d'existence. Ce thème de la double identité, il est évidemment très présent en littérature. Je me suis demandé si vous aviez eu des inspirations et si, par exemple, vous aviez lu le roman de Patricia Highsmith, Monsieur Ripley.
J'ai vu le film, si c'est bien l'adaptation.
C'est l'adaptation, il y en a eu plusieurs. Même.
Exactement.
Il y a eu Plein Sud en France.
Plein Soleil,
en France, et Le Talentueux Monsieur Ripley
voilà. Ce film m'a beaucoup... je me suis beaucoup inspirée de ce film que j'adore, où il refait donc, sa vie. En fait, le thème du mensonge, c'est-à-dire que d'une part, il y avait le thème du deuil sans corps, et du doute, et du fantôme, qui est très Rebecca de Hitchcock et tout ça. Et donc ça, c'est la partie Anna. Ouais. Et de l'autre, il y avait la partie comment construire sa vie sur un mensonge et sur un faux passeport. Et ça, c'est très polar, mais ça me plaît aussi, le thème du mensonge.
Et ben voilà, sur le pont des arts, vous nous avez offert une transition. Toute trouvée, Lynn Papin, voici notre pause café.
C'est l'heure de Café Polar.
Et à l'affiche de votre Café Polar aujourd'hui, Catherine, deux légendes, une écrivaine, Agatha Christie, et sa pièce de théâtre, La Souricière, qui détient tous les records.
Et oui, l'on connaît l'œuvre romanesque de l'autrice britannique qui, du crime de l'Orient Express à Mort sur le Nil, ou encore Ils étaient 10, est célèbre sur toute la planète. On ne sait pas forcément, en revanche, qu'elle est aussi dramaturge et que son texte, La Souricière, est la pièce de théâtre qui totalise le plus grand nombre de représentations à la suite, puisque depuis 1952 à Londres, elle est jouée en continu et elle a donc dépassé les 25 000 soirées consécutives.
Un succès phénoménal, Catherine, qui a traversé la Manche. Et depuis quelques jours, on peut voir une version française de cette pièce à Paris.
Oui, sur la scène du théâtre du Vieux Colombier avec 8 acteurs de la Comédie Française. Alors si on peut s'étonner de ce choc des cultures entre le temple du théâtre classique et la comédie policière populaire, pour Serge Bagdasarian, l'un des sociétaires et interprètes de la pièce, cette programmation est tout à fait naturel.
Dans cette maison, on a l'habitude tout le temps d'avoir des très grands textes, j'allais dire patrimoniaux et qui font l'histoire de notre civilisation, et des choses plus légères et qui font l'histoire de notre humour et du fait que le théâtre soit aussi un art de divertissement. C'est aussi précieux l'un que l'autre.
Serge Bagdasarian, qui est non seulement acteur dans la pièce, mais qui a aussi co-signé la nouvelle traduction, Catherine.
Exactement, avec Lilo Bor, qui met en scène la pièce. Ils ont tous les deux adapté le texte original en français. Mais est-ce que pour autant le comédien était déjà un lecteur d'Agatha Christie? C'est la question que je lui ai posée. Serge Bagdasarian.
Ah bah passionnément. Moi, j'imaginais pas un jour devoir la traduire, mais ça a été un grand plaisir. Et puis... moi, j'ai touché ça comme quelqu'un qui la vénère, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, j'aime beaucoup ses romans policiers, évidemment, comme tout le monde. Et ça m'a passionné quand Lilo m'a proposé ça, on y est allé. On avait l'impression de rentrer dans un grand temple anglais, c'était très beau.
Et vous l'avez vue à Londres ?
Non, moi, je voulais aller la voir. Et puis, on en a discuté avec Lilo, et puis finalement, on s'est dit non, on va pas aller voir ce travail-là. On en avait un peu entendu parler, on savait un peu à quoi s'attendre. Je vais aller la voir maintenant qu'on l'a créée, comme ça on ne va pas être influencé. Mais moi, je ne l'ai pas vue.
Alors parlons de La Souricière maintenant, Catherine, de quoi s'agit-il ?
Eh bien c'est un piège, comme l'indique le titre, un huis clos avec 8 personnages confinés, 8 pensionnaires qui ne se connaissent pas, mais qui bientôt vont être face à un drame. Alors c'est un peu un cluedo géant avec un meurtre qui plane au-dessus de la tête des protagonistes, mais peut-être que le plus simple c'est que le comédien qui incarne donc le major Metcalfe nous raconte lui-même les premières minutes, Serge Bagdasarian.
En fait, c'est simple, tout le monde se retrouve dans une sorte de pension de famille. C'est un jeune couple qui vient d'ouvrir cette pension. Et tous les personnages arrivent les uns après les autres et ils sont enfermés là parce qu'il y a une tempête de neige énorme dans la région. Et donc, on voit ça à travers la fenêtre parce que le niveau de la neige monte de plus en plus. Et donc, il y a un sentiment où, à un moment donné, ils vont être dans un huis clos où personne ne pourra venir. Et évidemment, là, il y a un inspecteur qui arrive et qui dit « Ne bougez pas, il y a eu un meurtre à Londres. » Et ça vous concerne parce qu'on a trouvé un carnet où était mentionné votre adresse. Donc, il va se passer quelque chose ici.
Et maintenant, vous êtes coincé. Quelqu'un veut vous empêcher d'aller chercher du secours, ou peut-être pour une autre raison.
Et laquelle ?
La souricière est donc une comédie policière. Catherine, est-ce que ça signifie qu'on rit autant qu'on a peur ?
Absolument. La mise en scène de L'île aux bords est non seulement très inventive, très dynamique pour créer la tension, voire la terreur, mais les acteurs déploient aussi une énergie prodigieuse avec les répliques qui fusent et qui s'enchaînent. C'est un peu comme une mécanique où les portes claquent et où les acteurs sont comme dans un ballet. En un mot, le tempo est crucial. Serge Bagdasarian.
Le rythme est très important. Lilo nous a demandé d'être comme dans un fédo, c'est-à-dire qu'elle nous dit, quand une porte claque, il y en a une autre qui s'ouvre, ça doit être très rythmique. Elle nous a beaucoup parlé de musique aussi, beaucoup, tout le temps dans ce spectacle. On est sur un timing assez pressé, c'est une histoire qui ne lambine pas.
Je veux tous vous voir ici, immédiatement.
Je crois que mademoiselle Cazot allait monter dans sa chambre.
Je vais la chercher.
C'est le major dans la salle à manger. Ah, tiens, il n'est plus là.
Je vais le chercher. Oui, vous me cherchez, c'est au sujet de Mesquite.
Donc il a fallu être très précis à ce niveau-là. Et elle a relevé une chose très belle dans cette mise en scène, c'est qu'à la fois, il y avait des places pour le rire, mais il ne fallait pas s'attarder là-dessus. Et il y avait surtout une façon, à un moment donné, de désamorcer les quelques moments d'angoisse qui pouvaient monter. Parce que quand même, à un moment donné, on se dit, mais il va y avoir combien de morts? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a une chose qui peut être un petit peu effrayante. Et souvent, dans ce qu'elle écrit, il y a toujours un petit moment, un contrepoint, soit parce que le détective est belge, soit parce que... Enfin, il y a quelque chose à un moment donné qui peut faire sourire. Il y a une réflexion où il y a beaucoup d'esprit et d'humour. Mais on ne s'attarde pas. C'est comme le reste. Tout ça est très rapide. Ça apparaît, ça disparaît tout de suite et on replonge dans cette histoire policière.
Une histoire policière qui fait sourire donc, mais qui est aussi dramatique, Catherine.
Oui, il faut dire que Agatha Christie s'est inspirée pour La souricière d'un vrai fait divers, terrible en 1947, la mort d'un jeune garçon qui avait été placé en famille d'accueil dans une ferme anglaise. Et pour celles et ceux qui connaissent bien les romans de l'écrivaine, le sujet de la maltraitance des enfants revient souvent dans son œuvre et c'est ce que Serge Bagdasarian a remarqué aussi.
Mais c'est un thème qu'on retrouve beaucoup, en fait, chez Agatha Christie. Il y a énormément ça. Quand on se souvient, par exemple, du crime de l'Orient Express, à la base de tout ça, il y a l'enlèvement d'un enfant et la mort d'un enfant. Et il y a une vengeance autour de la mort de cet enfant. Il y a des thèmes qui sont souvent liés au passé, à l'enfance, à la maltraitance, au fait aussi que des êtres sont tout simplement maléfiques avec leur entourage, violents. Et ça, c'est un thème... Alors, c'est très étonnant parce que quand on connaît un peu l'histoire d'Agatha Christie, elle a eu une jeunesse absolument dorée, des parents formidables, une enfance un peu cliché de tout ce qu'on pourrait attendre de la nanny anglaise. Enfin, c'est une histoire un peu parfaite comme ça. En tout cas, elle n'a jamais parlé de quoi que ce soit qui ait pu être de l'ordre de la violence sur elle. Mais elle écrit beaucoup ça. Là, ça, c'est très, très présent. Et c'est un thème qui est très présent dans l'œuvre. Et on n'a pas, nous, été très étonnés de le retrouver dans La souricière. Et évidemment, ce sont des thèmes encore d'actualité et voilà, qui font partie malheureusement du mauvais génie humain parfois. Et donc là, c'est présent, mais c'est présent très fort dans son œuvre, c'est vrai.
Et La souricière, Catherine, le titre s'inspire aussi d'une comptine.
Oui, les trois petites souris aveugles, Three Little Mice, que chantent tous les petits Anglais et qui ici est fredonnée par les personnages, au point que même Serge Bagdasarian la connaisse par cœur.
Three blind mice, three blind mice, see how they run, see how they run. Après, je ne sais plus. Voilà.
Mais merci beaucoup. Bon, vous êtes parti pour 70 ans?
Ah, je ne sais pas, j'espère que non, parce que de toute façon, nous, on a un théâtre d'alternance, on ne peut pas tenir 70 ans. Mais j'espère qu'en tout cas, il y aura un maximum de gens qui viendront voir ce spectacle ici, au Vieux Colombier.
Et puis surtout, il y a une consigne, n'est-ce pas ?
Ah ben, il y a plus qu'une consigne, il y a une obligation et un serment. Enfin voilà, il ne faut absolument pas spoiler cette histoire. On n'a rien le droit de dire en sortant, on sait et on emporte le secret avec soi.
Three blind mice, three blind mice. See how they run, see how they run. They all ran after the farmer's wife. She cut off their tails with a carving knife. Did you ever see such a sight in your life as three blind mice?
Voilà la souricière, à voir absolument, c'est 1h30 de pur plaisir au théâtre du Vieux Colombier à Paris jusqu'au 13 juillet avec une partie de la troupe de la Comédie Française dans une mise en scène de Lille au bord.
Et on compte pas sur vous donc pour spoiler.
Ah mais certainement pas.
Vous avez fait le serment.
Over my dead body comme disent les Anglais. Et si vous êtes comme moi une passionnée d'Agatha Christie, je voudrais vous signaler deux publications. D'abord un livret sans jeu et énigme spécial Agatha Christie. Ah oui. C'est l'ouvrage officiel où vous pourrez mettre vos petite cellule grise à contribution pour résoudre 250 pages de questions, mots croisés et autres défis inspirés de l'univers de l'écrivaine. Vous en aurez pour tout l'été, comme ça. C'est coédité par Le Masque et le livre de poche. Et Cherry on the Cake, le livre Agatha Christie des romans à l'écran, où là, l'auteur Jérémy Picard a recensé tous les films et téléfilms inspirés des romans. C'est une somme passionnante, érudite sur la question, une première en France. Et l'auteur ne manque pas non plus d'humour mordant. Et c'est publié aux éditions Hugo. Voilà, toutes les références, pièces, livres et interviews sont bien sûr à retrouver dans le podcast Café Polar.
Voilà, grâce à vous, on a de quoi se fabriquer un été Agatha Christie, Catherine Fréchon-Toussaint, au programme de Littérature sans frontières demain.
Demain, je reçois Tonino Benacquista. L'écrivain vient de publier Tiré de faits irréels et c'est un roman sur la littérature. L'histoire d'un éditeur qui a consacré sa vie à publier des textes d'auteurs dans une époque où on ne lit plus que des best-sellers et qui doit hélas mettre la clé sous la porte. Alors c'est à la fois doux et désenchanté, caustique mais aussi très réaliste.
On écoutera ça avec attention, Littérature sans frontières, demain 13h30.
Temps universel.
Temps universel. Merci Catherine Fréchon-Toussaint. Lynn Papin, je me demandais ce que votre roman, Une vague, avait à voir avec le policier. Il n'y a pas de meurtre, mais il y a quand même une intrigue.
Il y a une disparition.
Il y a une disparition,
une
enquête.
Oui, une enquête, oui, c'est
une,
ça.
Une enquête qui finit par être éclaircie à la fin.
On va peut-être pas raconter la fin du coup, mais...
On ne racontera pas la fin, c'est le principe.
Mais en effet, c'était...
On en a dit déjà, hein, si vous avez été attentif quand même, depuis le début, on a dit beaucoup de choses.
Mais il est vrai qu'avant ça, j'avais fait plutôt des livres, comment dire, sur des sujets intimes, avec beaucoup d'atmosphère et de poésie. Et,
vous avez eu envie d'une intrigue qui tienne le lecteur en haleine.
C'est ça, et je pense que aussi une grande partie du livre se passe aux États-Unis. Parce que moi, j'ai fait une tournée, en fait, là-bas, aux États-Unis, enfin, trois tournées d'ailleurs, où j'ai passé beaucoup de temps, du coup, à San Francisco, à New York, etc. Mm-hmm. Et bizarrement, j'ai l'impression que les paysages américains donnent envie d'écrire des choses un peu plus extérieures, comme si la littérature européenne était quand même plus introspective. Et la littérature américaine...
Vous avez voulu sortir de vous-même et nous transplanter ailleurs.
Et un peu faire comme mon personnage, d'ailleurs, c'est-à-dire disparaître en tant qu'auteur. Et c'est pour ça que c'est mon premier roman... à la troisième personne, et où j'ai éradiqué le jeu. Ouais. J'en avais un peu marre de ce jeu.
Pour vous intéresser aux autres.
À mes personnages, oui, aux autres. Ça fait un peu dur dit comme ça, mais en effet, oui.
One, two, three. Sleep until the sunrise. Listen to the falling rain. Don't worry about tomorrow. Don't worry about your pain. Don't cry unless you're happy. Don't smile unless you're blue. Never let the lonely monster take control of you. Glad that you free to change your mind.
Un inédit de Prince dans la playlist RFI du mois, encore la version acoustique de ce titre Free. Lynn Papin et son roman Une vague avec nous sur le pont des arts. Je voudrais vous faire écouter, Lynn Papin, la voix de l'un de vos aînés écrivains. Vous me direz si vous le reconnaissez. Il a écrit un roman intitulé D'autres vies que la mienne et il en lit ici les premières lignes.
La nuit d'avant la vague, je me rappelle qu'Hélène et moi avons parlé de nous séparer. Ce n'était pas compliqué. Nous n'habitions pas sous le même toit, n'avions pas d'enfants ensemble, nous pouvions même envisager de rester amis. Pourtant, c'était triste. Nous gardions en mémoire une autre nuit, juste après notre rencontre, passée tout entière à nous répéter que nous nous étions trouvés, que nous allions vivre le reste de notre vie ensemble, vieillir ensemble, et même que nous aurions une petite fille. Plus tard, nous avons eu une petite fille. À l'heure où j'écris, nous espérons toujours vieillir ensemble et nous aimons penser que nous avions dès le début tout compris. Mais il s'était écoulé depuis ce début une année compliquée, chaotique, et ce qui nous paraissait certain à l'automne 2003, dans l'émerveillement du coup de foudre amoureux, ce qui nous paraît certain, en tout cas désirable, 5 ans plus tard, ne nous paraissait plus certain du tout, ni désirable, cette nuit de Noël 2004, de notre bungalow de l'hôtel Evalanca. Nous étions certains, au contraire, que ces vacances étaient les dernières que nous passions ensemble, et que malgré notre bonne volonté, elles étaient une erreur.
Lynn Papin, vous l'avez reconnu
bien sûr,
dès Emmanuel le titre.
Carrère, oui.
Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne, qui débute donc sur le tsunami de 2004,
exactement.
Quand votre histoire à vous prend plutôt pour ancrage oui. réel à un tsunami qui s'est produit en 2013, hein, si je ne m'abuse, à Lombok, en Indonésie. Enfin, en tout cas plus tard. Est-ce que vous avez pensé à ce roman, D'autres vies que la mienne, en écrivant La vague ? Parce qu'il est question, encore une fois, d'un couple et d'une vague qui vient susciter pas mal d'interrogations.
J'ai lu pendant l'écriture énormément de choses, parce que je voulais me documenter un maximum sur le tsunami, mais aussi sur tous les disparitions, les articles de loi, tout. Et donc évidemment, ce livre-là se trouvait dans ma pile, et je l'ai lu de la même manière que j'ai regardé le film avec Naomi Watts, je crois. Sur
sans tsunami. Doute, je ne le connais pas, mais si vous le dites, je vous fais confiance.
Et donc voilà, oui, j'ai lu ce livre très beau qui aborde un peu d'un autre angle, puisque c'est moins à fictionnel et à rebondissement.
Absolument,
quoi.
Absolument. Je me demandais quand même si vous aviez des références littéraires sacrées dans votre panthéon, ou si vous avancez en tant qu'écrivaine, parce que vous avez un parcours impressionnant, hein, on l'a dit, ou si vous avancez un peu juste par vous-même.
J'ai des auteurs que j'aime, comme vraiment des classiques, Gary, Camus, Kafka, Éluard, Yourcenar, Duras, Sagan, etc. Mais je ne cesse d'en découvrir de nouveaux, en fait, surtout. Mmh. Et donc, je continue mon exploration comme un petit souris. Mais donc, voilà, je cesse de découvrir de nouveaux romans qui viennent aussi, surtout, de nouveaux continents avec des voix diverses. Et voilà, ça me plaît.
Votre vocation, elle s'est déclarée très tôt. Oui. Je parlais tout à l'heure de votre premier roman, L'éveil, qui vous avait valu à l'époque un prix qui s'appelle le prix de la vocation. Oui. Ça va faire bientôt 10 ans, ça fait 9 ans, je crois.
Oui.
Vous avez commencé à écrire à l'adolescence. À quel moment est-ce que ça vous est venu, cette envie ?
J'ai toujours écrit depuis même l'école primaire. En fait, c'est drôle. Je pense que mon père avait beaucoup de livres à la maison, donc je pense que j'avais compris très très petite que l'objet du livre était un objet de voyage, qu'on prenait un livre un peu comme on prend un avion. Il y a des photos de moi à vraiment un an et je tiens un livre que je ne sais pas lire, mais je sentais, comme je voyais mon père lire, je me disais, on peut voyager là-dedans. Ouais. Ça nous amène ailleurs,
plonger.
Ce truc.
Ouais.
Et donc, j'ai toujours écrit, je faisais toujours des petites histoires, même illustrées avec des dessins. Donc,
ouais.
C'est vrai que l'imagination et l'idée de raconter quelque chose m'a toujours accompagnée.
Ouais. Et la publication
et
le
publication,
début du succès, ouais. Ça s'est fait naturellement ou ça a été compliqué là aussi ?
Ça s'est fait, j'ai rencontré un éditeur qui était donc Madame Bourgois, des éditions Christian Bourgois, la première fois quand j'avais 16 ans, j'étais en seconde je crois ou en première,
ouais.
Et elle m'avait accueillie, etc., dans son petit lieu, dans sa maison d'édition. Et ça s'est fait, comment dire... en fait, j'ai... Bon, c'est assez personnel, mais bon, en même temps, tout le monde le sait. Donc... mais j'ai passé un an à l'hôpital en seconde. Et donc, en sortant de l'hôpital...
Parce que vous le racontez dans un dans de vos romans. On vous disait justement que vous aviez beaucoup exploré l'intime.
Ouais, c'est ça.
Dans Les Eaux des Filles, vous évoquez un épisode d'anorexie. Voilà, maladive, tragique, terrible.
Ouais, qui était lié au déracinement, justement, du Vietnam, etc. Mais donc, ce livre retraçait un peu ça, la mémoire transgénérationnelle, les guerres du Vietnam, etc. Et donc, cette année que j'avais passée à l'hôpital... Et je pense qu'en fait, en sortant de cette année-là où j'avais énormément lu, je lisais 2-3 livres par semaine, mais des gros livres d'Anna Karenine et tout ça.
Ouais.
Et en sortant de là, c'est comme si j'avais rien à perdre, en fait. Donc rien ne me faisait peur parce que j'avais rien... voilà, j'avais... Et du coup,
Vous êtes lancée.
Et donc je me suis dit, tiens, si j'avais envie de faire quelque chose... En fait, qu'il reste quelque chose de ma vie, si jamais je dois m'en aller, j'aimerais bien qu'il reste un livre. Et donc je l'ai présenté sans trop de crainte. Et puis elle m'a dit de le retravailler, que c'était pas publiable, et donc trois ans.
Mais c'était
ans,
déjà un encouragement à continuer.
C'était un encouragement, tout à fait. Et donc 3 ans plus tard, j'ai rencontré mon éditeur actuel.
Et vous en êtes donc à votre 6e roman, un recueil de poésie également. Et on vous recommande évidemment cette lecture. Une vague est parue chez Stock. Merci beaucoup, Lynn Papin, d'être passée sur le Pont des Arts pour nous en parler.
Merci à vous.
Alexandre Cayuela était à la réalisation avec Pierre Plantier, Damien Roucou, à la programmation, merci à eux, et à notre stagiaire Juliette Louis, merci à vous aussi évidemment de votre fidélité à l'écoute. Si vous nous avez pris en route, vous retrouvez l'intégralité de l'émission sur RFI.fr ou sur notre application Pure Radio. Demain sur le Pont des Arts, de la musique avec James Beckes. Rise, voyez-nous nous lever. Nouvelle EP du chanteur et compositeur franco-camerounais James Beckes, fils du légendaire Manu Dibango. Il sera avec nous et en live dans l'émission sur le Pont des Arts. Annie Gasnier vient de faire son entrée dans ce studio. Bonjour Annie.
Bonjour Nathalie.
Dans 10 minutes, on vous retrouve pour Radio Foot International. Quel est le programme aujourd'hui ?
Eh bien, nous continuerons à suivre ce mondial des clubs avec le Real Madrid dans la suite de sa saison. Pas vraiment vainqueur et en plus... Kylian Mbappé est à l'hôpital pour un malaise. Manchester City a gagné avec Ryan Cherki, pas franchement non plus convaincant. Et puis surtout la Juventus. Alors la Juventus, elle a gagné largement, mais par contre c'est son passage par le bureau ovale de la Maison Blanche qui fait parler en Italie. Des Italiens qui justement ont un nouveau sélectionneur. Il a parlé aujourd'hui, il s'est présenté, il a présenté surtout sa méthode pour qualifier l'équipe au prochain mondial. Et puis nous évoquerons la Jordanie qui sera pour la première fois à la Coupe du Monde, un moment historique, et le sélectionneur, l'international marocain, ancien international Jamal Selami, sera en direct avec.
Eh ben, sacré programme, Radio Foot International, 18h10, heure de Paris, bonne émission. Annie, quant à moi, je vous dis à demain.
C'était sur le Pont des Arts avec la compagnie Corsair et ses vols vers Paris, l'Afrique et l'océan Indien.